On a commencé à étudier dans le Perek Mem Aleph, dans le chapitre 41. Servez-vous, hein, c'est pour ça.
Non, mais je préfère avec le ton, moi, c'est dérangeant.
Maintenant, tout le monde vient, tiens. Là-bas.
On
a commencé à expliquer dans Perek Mem Aleph. On est rentré dans une série de prakim pour expliquer l'importance de la Ahava et de la Ira. De l'amour d'Hachem, de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Et on a expliqué que les deux étaient indispensables. On a commencé par la crainte de Dieu. Pourquoi? Puisque dans le Zohar, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit que le plus important, celui qui doit venir en premier, doit être la crainte d'Akadosh Baruch. Donc on a expliqué comment... Donc on va expliquer tous les détails, toutes les étapes, comment ça se passe. Donc on a expliqué au début du Pérec, on a expliqué pourquoi la crainte d'Akadosh Baruch Hu est très importante, et on a expliqué comment n'importe quelle personne, peu importe s'il est Benoni, Tzadik ou Racha, n'importe qui, peut arriver à une crainte de Dieu très rapidement. Comment? C'est quoi la technique? La technique, on l'a faite en deux temps. C'est quoi les deux temps, Yaakov?
Alors, il y a trois temps.
Ah, le troisième, on l'a pas dit encore. Il y a trois temps. D'accord.
Yaakov,
il y a la sauce sucrée et la sauce salée.
Non, d'abord, il faut considérer qu'Akadosh Baruch Hu, il a toujours son regard sur Israël.
Alors attends, on n'a pas encore parlé du clan d'Israël, c'est après ça. Là, on parle pour l'instant de l'individu.
Mais bon, lui, il a du recul.
Oui, il a de l'avance.
Ah. Pourquoi c'est pas ça qu'on a dit.
Donc on a dit comme... Non, on n'a pas parlé du clan d'Israël.
Pas encore, ça c'est vrai.
On n'a pas encore parlé. Donc on a dit comme ça.
Pour vous, c'est naturel, vous comprenez tout de suite.
On a dit qu'une personne doit s'imaginer... On a expliqué comment une personne peut amener la ira à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Une personne doit s'imaginer d'abord la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Premier temps. Alors je m'imagine comment Dieu est grand. Je peux me l'imaginer comme un enfant s'imagine. Je peux l'imaginer comme un adulte s'imagine.
Voilà.
À n'importe quel âge, je sais que moi, à n'importe quel âge, quand j'étais petit, je m'imaginais que Dieu était très grand et que Dieu était en haut. Après, on grandit, on comprend, mais chacun peut s'imaginer que Dieu est grand. Ça, c'est première étape.
Première étape. Oui.
Deuxième étape. C'est quoi? Je m'imagine que ce Dieu qui est très très grand, qui est big, il n'est pas en haut. Il est ici. Il me regarde. Il attend de voir ce que je vais faire.
Oui.
Comme on avait amené la Gemara qui avait dit que chaque personne doit dire Bishvili Nivra Aolam. Le monde a été créé pour moi. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est là, il est en train de te regarder. Le focus, il est sur moi. Akadosh Baruch Hu est en train de me regarder et il attend de voir ce que je vais faire. Ça, c'est le deuxième temps. On va développer un peu plus l'idée, mais le concept était là. Le concept était que quand on a déjà ces deux temps, la personne commence déjà à ressentir quelque chose. C'est-à-dire, en premier temps, je réfléchis que Dieu est très très grand, et en deuxième temps, je réfléchis que ce Dieu qui est très grand, il me demande de faire une mitzvah. Donc on va approfondir un petit peu plus. La semaine dernière, on a expliqué le concept. Maintenant, on va approfondir un peu plus ça. On est à Veya Amik. Veya Amik. Avec plaisir.
Déjà ?
Donc on s'est arrêté à Veyamik Marchavazo. Veyamik Marchavazo, page 112. Donc, la personne Valken s'arrête la mode le fanaf de Imovira. C'est pour ça que la personne, quand il va arriver, il va faire ce constat, il va comprendre que Akadosh Baruch Hu est très grand. Et que moi je suis très petit. Donc il y a un. Ça veut dire, Dieu est très grand et moi je suis très petit, et maintenant, il y a les deux qui vont s'unir. D'accord ? Tsarich la mode lefanav be'ema uvira. La personne, quand il va réfléchir à ça, et comme on l'a dit, il suffit d'essayer. Et on verra après dans la suite du chapitre qu'est-ce qui se passe, celui qui essaye et ça marche pas. Les mecs qui ont essayé, il me dit bus, bus, bus. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce qui se passe s'il a essayé et ça n'a pas marché? On verra. Normalement, dans la normale des choses, ça marche. Même chez un enfant, ça marche. Tu réfléchis. On va expliquer après comment dans la psychologie c'est comme ça aussi. On réfléchit comment la chose est très grande, comment ce que tu dois recevoir est très grand, et comment toi tu es tout petit. Normalement, ça marche à tous les coups. C'est pour ça que la personne doit se tenir avec une crainte devant Kadosh Baruch Hu, qui est Omed Lifna Meler, comme si on était debout devant le roi. On va s'approfondir dans cette pensée-là. Parce qu'encore une fois, ce que veut dire le Morazaken, c'est que même si je t'ai dit que même un enfant est capable de le faire, ne crois pas que c'est quelque chose de facile. Ça prend du temps. Il faut s'approfondir. Il faut s'approfondir, il faut se mettre dans un coin, il faut réfléchir. Veyar irba, il faut essayer de rester. Le plus dur quand on réfléchit à quelque chose, c'est de continuer, de réfléchir continuellement à quelque chose. Réfléchir 5 secondes à quelque chose, on peut.
De faire durer sa pensée.
Mais essayez de réfléchir à la même chose pendant 30 secondes. Alors que ça vous intéresse pas spécialement. C'est très très dur. 30 secondes. Quelque chose qui ne t'intéresse pas, essaye de réfléchir 30 secondes.
C'est long, c'est long.
C'est très très long, 30 secondes. Quand ça nous intéresse, on peut réfléchir des heures. Donc là, il te dit, Veyarirba, tu vas essayer de réfléchir à ce que je viens de te dire, comment Dieu est très grand et que moi, je suis tout petit. On va essayer de maintenir la pensée le plus longtemps possible. Kefi yicholet asagat mocho. Ou marchafto. Comme jusqu'à où ton esprit et ton intellect peut aller. Tu vas jusqu'à où tu peux, jusqu'à que tu craques. Tu dis, ça y est, c'est bon, j'ai compris, ça va, Dieu est grand, je suis petit, c'est bon. Ukfi apnai shelo. Deuxième élément qui est ici aussi, c'est quoi? C'est le temps. Il faut du temps pour le faire.
Non, son niveau de disponibilité.
Du temps pour le faire. On dit, on sait par exemple que, à l'époque, Jedmor HaZaken, il y avait des gens, je sais pas de quoi ils vivaient, mais en tout cas, il y avait des gens qui commençaient leur tefila à 6h du matin, qui l'avaient fini à midi. Tu comprends? Donc, kefi apnai shelo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient du temps, ces gens-là. Voilà, Admor HaZaken, il dit, je sais que pas tout le monde a du temps, donc, et quelqu'un, même s'il veut, il aimerait avoir du temps, mais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de réfléchir longtemps. Donc il dit, pas de problème, fais ce que tu sais faire, fais ce que tu peux faire. Un moment propice quand même pour réfléchir à ça, à cette notion-là qu'on a dit, premièrement, réfléchir comment Dieu est grand, et deuxièmement, réfléchir comment je suis petit. Donc là, on va commencer à rentrer dans les détails. Jusqu'à présent, on a donné seulement le concept, maintenant on va rentrer dans les détails. Donc, quel moment je peux réfléchir ça? Lifne Esek HaTorah, Oa Mitzvah. Avant que je commence à étudier la Torah, ou avant de faire une mitzvah. Kemo, par exemple, Levisha, Lifne Levisha Talit Utfilin. Je vais donner un exemple. Pourquoi il prend l'exemple de Talit et Tfilin? Parce que juste après, on va expliquer une kavana. On va expliquer en particulier pourquoi on parle de Talit et Tfilin. Donc il dit comme ça, le matin, je vais mettre le Talit et les Tfilin. Prends 15 secondes, prends 20 secondes, dans lesquelles tu réfléchis, il y a un Dieu qui est très grand. Et ce Dieu qui est très très grand, d'accord, il m'a donné une mitzvah. Et il s'occupe de moi, et il attend de voir comment je vais faire la mitzvah. Ça, c'est un premier point. Donc, le moment propice pour le faire, c'est avant d'étudier et avant de faire une mitzvah. Très bien. Il continue. Et là, on arrive au troisième temps que Yaakov t'a dit tout à l'heure. Il dit, Vega mitbonen. La personne va réfléchir aussi. Donc, déjà, je donne les étapes. Après, Bezrat Hashem, on va expliquer. Vega mitbonen. La personne va réfléchir aussi. Erche or en sov varuchu at sovev kolalmin ou memale kolalmin ou ratan alian. Il faut bien comprendre, on n'est pas en train de parler ici d'un jour de Rosh Hashanah ou d'un jour de Yom Kippour. On parle d'un, comment il dit, il y a un proverbe qui dit « Apoche tes mitzvot », ça veut dire un simple mercredi. D'accord, c'est ni lundi, ni jeudi, c'est un jour de semaine. Un jour de semaine, d'accord, c'est pas Rosh Hashanah Yom Kippour. Il faut créer la sensation. Tu oublies, Dieu, tu l'as oublié. Très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire?
Apoche
tes mitzvot.
Mitzvot. Milieu de la semaine.
D'accord, le milieu de la semaine.
Apoche, un pashut, milieu de semaine.
Ah, mais un pashut, un milieu de semaine simple.
Simple. Apoche tes mitzvot. Ah, je voulais savoir comment.
L'expression. Il y a une expression qui dit un simple mercredi. Ça veut dire c'est ni lundi, ni jeudi, ni...
Non, c'est bien, c'est bien.
D'accord. Bon.
Pas donc,
pochete.
Pochete. Pashut. Pashut, c'est des mots, ça, alors.
Ben
oui, c'est tout en hébreu, d'accord.
L'idish.
Ah oui. C'est mélangé. Midvor. Mid, c'est middle.
Mid. Mid, c'est au milieu. Le milieu de la semaine.
Et vor, c'est la semaine.
Avec. En allemand, mid.
Mid, c'est aussi le milieu.
C'est plutôt en...
C'est aussi le milieu. Donc il dit comme ça. Donc je réfléchis à ça avant de mettre les talits et tefillin. Et à part ça, qu'est-ce qu'on dit? Je vais réfléchir aussi comment Or en Sof Baruch Hu Asovev Kolalim Umele Kolalmin ou Ratzon Alion Umelubash Beotiot Vechokhmat HaTorah. Je m'apprête à faire une mitzvah. Voilà, disons par exemple.
En fait, comme... je l'ai pensé. Hein.
Ouais. Non, mais justement, on va expliquer comment en vérité c'est très simple. Que même un enfant est capable de le faire. Je m'apprête à faire une mitzvah. Par exemple, je m'apprête à mettre mon talit. D'accord? À quoi je réfléchis? Tout d'abord, je réfléchis, mais après, une fois qu'on s'habitue, après c'est très rapide. Comme je vous ai dit, moi, depuis que je suis à la yeshiva, je me suis habitué que le début du Perek Mem Alef, je le récite tous les matins. On s'habitue, après c'est en 10 secondes, c'est fait. D'accord?
Comment?
En 10 secondes, c'est fait. Le début de ce chapitre, le chapitre 41, je le récite tous les matins par cœur.
Pourquoi?
Mais parce que c'est là où on prend conscience, on a dit allô.
Donc,
c'est pas votre genre.
On va donner un exemple. Donc, un exemple très simple. Je m'apprête à mettre les tefillin.
Le talit.
Je m'apprête à mettre le talit. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je réfléchis comment Kadosh Baruch Hu est très grand. Il y a un Dieu qui est très grand. Ça veut dire que c'est pas un Dieu qui est petit. Hein. Dieu est très très grand. Il y a un big Dieu qui est là. Très bien. Ensuite, je réfléchis que ce big Dieu, il n'est pas ailleurs dans une planète. Il est là. Il est ici. Il m'attend, il me regarde. Très bien. Jusqu'ici, il n'y a pas de rapport direct avec la mitzvah. J'aurais pu réfléchir à ça n'importe quand. Je peux réfléchir à ça n'importe quand dans la journée. D'accord ? Quand pour me retenir de faire une avéra, je réfléchis à ça et bon, ça marche ou ça marche pas. Là, il y a un troisième élément qui est l'élément mitzvah. C'est que je me dis que ce Dieu qui est tellement grand et que moi je suis tellement petit, qu'est-ce qui fait ce Dieu? Ce Dieu, il m'a donné une mitzvah. C'est-à-dire quoi qu'il m'a donné une mitzvah? Ça veut dire que ce Dieu, dans son extrême gentillesse, il a créé un pont par lequel si je m'attrape à ce pont, si je m'attrape à ce fil, je peux m'attacher à lui. C'est un troisième détail. Parce que dans les deux premiers détails qu'on expliquait la semaine dernière, il n'y a pas forcément de rapport avec la mitzvah. Je peux réfléchir n'importe, à n'importe quel moment de la journée que Dieu est grand et moi je suis petit. Et que Dieu est, qui est très grand et que moi qui est petit, Dieu me regarde. Bon, c'est assez général. Là, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. Quel détail? Je réfléchis que ce Dieu qui est très grand, il m'a donné un pont, il m'a donné un fil. Il a dit, voilà, je lance le fil, tu vas attraper le fil. C'est quoi le fil qu'il m'a donné? Le fil qu'il m'a donné, c'est l'étude de la Torah, comme il explique ici. Que Akadosh Baruch Hu est habillé, c'est ce qu'il dit ici. Meloubash be otiyot ve chokhmat ha Torah, Akadosh Baruch Hu est habillé dans les lettres et dans la sagesse de la Torah. C'est-à-dire que la Torah que je vais étudier maintenant, c'est pas simplement un kiff personnel que je vais faire, c'est pas une science que je vais étudier. C'est ce big Dieu que je viens de réfléchir, il est dedans. Je suis en train d'attraper le fil, la perche qui m'a tendu. Oh, betzitutilinelu. Ce Dieu est habillé ou dans la Torah, ou bien dans les tzitzit et dans les tfilines. Ou bikriato, ou bilvichato, pour reprendre l'exemple qu'on a dit. Quand on parlait d'étudier la Torah, ou de s'habiller avec les tzitzit. Quand je vais lire, quand la personne va lire dans la Torah, obil vichato, quand je vais m'habiller, donc quand je vais m'habiller avec le talit ou avec les tefilines, parce que les tefilines aussi s'appellent un vêtement, ou même shir oroid barechalav, je vais amener la lumière de Dieu sur moi, ça veut dire en d'autres termes, Dieu me tend une perche, d'accord, et quand je fais la mitzvah, je prends la perche. Donc Dieu m'envoie une perche avec de la lumière, d'accord, et Dieu veut résider sur moi, et quand je fais la mitzvah, je prends la perche. Da'inu, ça veut dire, al chelek elokash mimal shibetor gufo li kalel velibatel boroid barech. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire une mitzvah? Je vais attraper la perche, et puisque je vais attraper la perche, à ce moment-là, la lumière de Dieu qui est en moi, ma neshama, va monter chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'où l'expression qu'on dit que quand on fait une mitzvah, la neshama monte chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle monte. Je sens pas qu'elle monte. C'est ça le concept. C'est que Dieu me tend une perche, et quand je fais une mitzvah, j'attrape la perche. Donc automatiquement, il y a une sensation, il y a quelque chose qui est fait pour l'âme divine. Donc ça c'est une troisième phase. Donc encore une fois, il faut s'habituer, mais c'est assez simple. Ça veut dire, premièrement, je réfléchis comment Dieu est grand. Deuxièmement, je réfléchis comment moi je suis petit. Et troisièmement, je réfléchis comment ce Dieu qui est grand et moi qui est tellement petit, Dieu a eu la gentillesse de me tendre une perche. Je me dis, voilà, je tends la perche, il suffit que tu l'attrapes et c'est bon. Tu t'es collé à moi. Tout ce que je fais, tu fais. Bon. Tout ça, c'est toujours une kavana générale. C'est-à-dire, il n'y a pas de kavana particulière pour les tzitzit et les tfilines. Je peux réfléchir cette kavana avant n'importe quelle mitzvah. Puisque toutes les mitzvot sont des perches. Bien d'accord. Il n'y a pas de rapport direct avec la mitzvah de
Titi. C'est encore général, mais c'est quand même
plus précis. C'est plus précis. On va aller un peu plus loin.
On a gagné un schlav.
On va aller un peu plus loin.
Un schlav.
Un schlav, c'est une étape. Un échelon.
En quoi? En hébreu. Je pensais que c'était ce domaine qui vous pointait en ce moment.
Bien sûr, oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu peux être la ramère.
Non. Je ne parle pas la ramère. Je le lis un peu, je le comprends de temps en temps, mais je ne parle pas.
Très peu de gens qui parlent la ramière.
Je pense.
Mais en Syrie, là, les...
Ouais, bon, qu'est-ce que c'est,
bon.
Qui parle que de ça.
Ouais, il parle que de ça.
Donc, il dit comme ça. Donc, ça, c'est... là, déjà, on a eu la troisième étape. Troisième étape, c'est de rentrer... Enfin, c'est pas des étapes, c'est-à-dire troisième détail. C'est-à-dire, je rentre un peu plus dans le détail. Je réfléchis comment Akadosh Baruch Hu m'a donné une mitzvah. Et puisqu'il m'a donné une mitzvah, il m'a tendu une perche. Comme j'ai dit, ça je peux réfléchir avant n'importe quelle mitzvah. Avant Talit, avant Tfilin, avant d'étudier la Torah.
Avant de manger.
C'est général, d'accord? C'est général. Il n'y a pas de détails. Après, il continue. Il dit, Vederer Prat, d'accord? Alors ça, on ne demande pas de le faire, mais la Gemara Zaken, il veut simplement te dire que ça existe. Quand on dit que des kabbalistes, ils vont vous dire, que quand on met les Tfilin, il y a tel kavana. Quand tu mets les titites, il y a tel kavana. On entend ça des fois. Des gens, ils vous disent, voilà, ça c'est tel kavana, ça c'est tel kavana.
Les Shemirhoud.
D'accord? Les Shemirhoud, exactement.
Oui,
ça, Morazek Antelis, ça existe.
Des livres spéciaux.
Il va nous donner un exemple. D'accord? C'est pas le but de la Morazakan ici. Parce qu'il sait que ça, c'est déjà accessible plus difficilement.
Ouais.
Il va simplement nous donner un exemple sur deux mitzvot. Les deux mitzvot qu'il a cités, Talit et Tfilin. Il va nous montrer comment dans ces deux mitzvot-là, on peut trouver une kavana spécifique à la mitzvah. Kavana qui a que dans Talit, qui a pas dans Tfilin. Kavana qui a que dans Tfilin, qui a pas dans Talit. Là, on est passé déjà à la quatrième étape. D'accord? Mais, il va simplement nous montrer jusqu'à où on peut arriver. Vederer Prat.
Est-ce que parce que le Hadmour il donne comme exemple d'Afka Talit et Tfilin, qui ensuite est devenu une mitzvah assez phare dans le mouvement Lubavitch?
Non, pas spécialement. Non, ce que j'ai lu dans les commentaires, il donne l'anecdote de Talit et Tfilin, parce que c'est la première mitzvah qu'on touche pendant la journée. Donc en général, on commence la journée avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il donne cet exemple-là. Et c'est une mitzvah qu'on a tous les jours. Ça, on peut pas passer à côté. Donc Vederer, on parlera un peu de la Tfila aussi. Vederer Prat.
Je cherche la smartote.
Talit, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas eu de Mifta.
Mifta sur le Talit. Non, mais chez nous, ça va avec, c'est pour ça.
Donc il dit, Vederer Prat, tu as mon Eiv ?
Ouais,
tournez la page. T'es dans les sushis ? Il y a encore d'autres ici, hein. Je sais pas, il y a Surimi, il y a Eton.
Bon, après, quand ceux-là ils sont finis, Eton, on l'amène.
C'est dommage, ça va jeter, sinon manger les.
Il faut les manger. Alors,
moi,
maman, je peux les manger.
Moi, je savais pas combien il fallait commander, j'ai.
Bereva.
Il y en a au moins un qui mange pas.
Alors.
Mangez pas ce
sushi. Vederer Prat. Tiens, c'est la ligne qui commence Vederer.
J'ai essayé pourtant. Oui.
Ah ouais ?
L'Ovalie.
Vederer Prat.
Il faut s'y faire au départ, j'ai qu'est-ce que c'est que ces trucs, mais quand on les mange après, on trouve du
goût. On trouve du goût,
hein. Donc, quatrième phase, Vederer Prat.
Toi aussi, faut que tu prennes un indien. Franchement, parce que c'est pas sympa, quoi. C'est quand même ton anniversaire.
Moi, je prends si vous prenez.
Non, non, moi, c'est le travail
à
la semaine.
Mais ils vont sortir avec la dame croûte à l'intérieur.
Ah, quand ils sortiront, non, on avisera.
C'est déjà. Comment ça marche? Il faut se tromper.
Non, je dis ça pour le
prix. Ça, comme ça?
Oui.
Non, deux secondes, il fait une pause.
Ça avec, et ça avec.
Ah.
Avec un peu de surmouchi et surmouchi, là.
On m'a dit, je vais t'en ouvrir un, et tu vas te tromper dedans.
Ça, ouais, ça, ça comment, lequel premier?
Non, mais pas comme ça, je dis, tu le prends et tu le manges.
Ça se mange, la trempette, c'est pour lui, là.
Voilà, c'est pour toi, je vais le faire.
Oui, voilà. T'es là, peut-être, non?
Voilà, ça sera, elle sera. Exemple de, on va donner l'exemple de Tfiline et de Tfiline et de Talit. On va montrer comment dans Tfiline et Talit, on peut avoir une quatrième étape.
C'est du design.
Une quatrième étape qui est, c'est quoi la quatrième étape? C'est de montrer comment on peut avoir une kavana particulière dans le Talit et dans les Tfilines.
Très bien.
On va commencer par les Tfilines.
J'ai dû commencer pour manger ça.
D'accord. On va commencer par les Tfilines. Vederer Prat. Bit Tfilines.
Quel?
Donc on va donner rentrer dans les détails.
C'est quoi les kavanot?
Par exemple, quand je mets les Tfilines, quel kavana je vais avoir? Donc tu m'as déjà expliqué que j'ai déjà réfléchi au fait que Dieu est très grand, que moi je suis tout petit. J'ai déjà réfléchi au fait aussi que le concept d'une mitzvah, c'est que Dieu me tend une perche et qu'en faisant la mitzvah, j'attrape la perche. Très bien. Alors où on va aller maintenant? On va commencer par les Tfilines. Libatel velikalel, frinat rochmato ou binato. Qu'est-ce qui se passe quand on met les tefillines? Quelle est la kavana qu'on devrait avoir quand on met les tefillines? Quand on met les tefillines, la kavana qu'on doit avoir, hein, c'est que grâce aux tefillines, on va annuler, et après on montrera comment c'est écrit dans Shulchan Aruch, on va annuler et on va inclure frinat rochmato ou binato chez Benafsho Eloki, du frinat rochmato ou binato chez Benafsho Eloki. Je vais inclure, je vais englober mon intellect avec l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Alors on va commencer, je vais expliquer en quelques lignes. Amloubashot derer prat de parashat kadesh vaya kiviach. Vous savez que dans les tefilines, on parle des tefilines de la tête surtout, qui est le plus important, on a quatre cavités. Quatre cavités qui sont kadesh, d'accord, kadesh likol bechor, vaya kiviach. On a la parasha de Shema et la parasha vaya im Shemua. Il y a une machloket entre Rashi et Rabbeinu Tam.
D'où?
D'accord. Et qui, d'ailleurs, en vérité, c'est une machloket qui est vieille comme le temps, parce que c'est une machloket qu'on retrouve aussi dans le Zohar, et selon certains avis, c'est une machloket qui a existé depuis l'époque de Moshe Rabbeinu déjà. C'est quoi la machloket? La machloket est très simple. La Torah a donné un ordre dans les parachas. On sait que c'est Kadesh, pardon, Vaya Kiviacha, Veaya et Shema. On sait que l'ordre est comme ça. La question est-ce que l'ordre doit être fixé par rapport à la perspective de la personne qui me voit? C'est-à-dire que la personne qui me voit, il doit avoir Kadesh, en commençant de droite à gauche. Kadesh, Vaya Kiviacha, Vaya Mishamua et Shema, ou bien c'est par rapport à la perspective de la personne qui porte cette filine. C'est Machloket Rashi Rabbeinu Tam. Rashi pense que c'est par rapport à la personne qui me voit.
Ah, tu te vois.
Me voit. Et Rabbeinu Tam, il pense que c'est. En fait, c'est écrit dans le Zohar déjà, mais Rabbeinu Tam est le premier qui a amené ça dans la Halakha. Dans Mnachot, dans la Gemara Mnachot. Il a amené ça, il dit que, selon lui, c'est pas de la perspective de celui qui te voit, c'est de la perspective de celui qui met les tefilines. Bon.
Mais ni l'un ni l'autre ne le voit.
Ni l'un ni. Pardon.
Ni l'un ni l'autre ne le voit.
Les parachas.
Oui.
Oui, t'as raison. Parce qu'ils apprennent, du pasouk. Rabbeinu Tam, il a un pasouk duquel il a dit, Rashi, il a un pasouk duquel il apprend qu'on se base sur la personne qui nous regarde. Parce que c'est écrit dans les tefilines que les tefilines, ils vont être un signe sur ta tête. Donc si oui. C'est un signe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va le regarder. Moi, c'est là le, quand c'est un signe, c'est ça pour que quelqu'un d'autre le regarde. Autres, oui. Un signe pour les autres. Bon, c'est ma requête. Tu vas dans la Gmaram Nachot, si tu veux, la flamette d'Alet. Gmaram Nachot, là-bas, elle explique,
J'ai passé jusque
bon. Très bien. Alors,
t'es à la Med.
Donc il dit comme
Amoudalef ou Amoudalef?
Amoudalef. Amoudalef. Donc il dit derrière.
C'est un tueur.
On est chance sur deux. Hein.
Non, non, mais ça fait, ça rejette quand même. Alef, mais ça fait du répondant quoi. Au prochain lundi, il avait la réponse. Sinon, parce que je sais pas, je me rappelle pas.
Avant le... instant, on se rappelle en général du Talmud Aleph ou Amoud Bet.
Ouais, là,
oui.
Ouais, c'est savoir la page, c'est plus difficile.
Savoir la page, c'est plus difficile. La, si c'est recto verso, tu te rappelles, visuel, ça on se rappelle. Enfin, moi, je me rappelle, en tout cas, en général.
Non, non, mais c'est étonnant, cette... Bon, c'est pas le sujet, mais c'est étonnant.
Alors...
Non, c'est étonnant que...
Non, parce qu'on
s'entend, elles n'ont jamais la même forme. Une fois, c'est comme ça, une fois, c'est comme ça. Il y a plus large en haut, plus... C'est jamais qu'ils ont la même forme. Mais donc, il doit avoir une raison par rapport à ça.
Oui.
Pourquoi est-ce que ça n'a jamais fait la même forme dans les pages d'Agmara? Ça peut être par rapport à ça. Pour donner un moyen mnémotechnique aux gens de se souvenir.
Par contre, je sais pas si vous avez remarqué dans la Gemara, il y a toujours les quatre lignes dans, toujours dans Rashi et Tosfot, toujours quatre lignes en haut qui sont larges. Et après, ça devient petit.
Ouais.
Toujours quatre. C'est une, apparemment, j'ai lu dans le livre Madrich le Talmud.
Ah oui, de Stenzal.
Il dit que c'est une massorette, une tradition qu'on a comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que c'est une tradition. Une tradition. Dans toute la Gemara, hein, c'est comme ça. Il y aura toujours Rashi et Tosfot, les quatre premières lignes, elles sont larges. Et après, ça devient petit. Bon, après, quand on arrive en bas, des fois, ça devient plus grand, moyen, large. Bon, ça c'est... Bon. Donc, il dit comme ça. On revient à notre filine. Enfin, on va commencer par les deux premières parachas, qui sont Kadesh et Ve'aya Kiviach. Qu'est-ce qui explique le Zohar? Zohar, il dit, Amloubachot derer prat et parachat Kadesh, Ve'aya Kiviach. Kadesh explique le Zohar. Le Zohar explique que Kadesh, ça correspond à la Chochma. Ça correspond à l'intellect. Pourquoi? Parce que le Zohar explique que, quand on dit Kadesh li kol Bechor, il dit que c'est quoi le Bechor? Bechor, c'est le premier-né. Et dans les Sphirotes, c'est qui le premier-né des Sphirotes? C'est la Chochma, c'est l'intellect. D'accord? C'est lui le premier, c'est de lui que vont naître tout le monde. C'est après lui que tout le monde va suivre. Donc le Zohar, il dit, quand on dit Kadesh li kol Bechor, c'est qui Kadesh? C'est qui, de qui on parle? On parle de la Chochma, on parle de l'intellect d'une personne. Ensuite, la deuxième paracha, c'est quoi? C'est Ve'aya ki eviacha. La deuxième paracha, on dit Ve'aya ki eviacha Hashem Elokecha, quand Hashem va t'amener, etc. Bon, la paracha de Ve'aya ki eviacha. Et là-bas, de quoi on parle? On dit Kish alcha bincha machar les morts.
Mazot.
D'accord? Quand ton fils te demandera mazot, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mitzvah qu'on fait? Tu lui diras, Ve'amarta Ela, tu diras qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, etc. Très bien. Rosakad. Bincha, explique le Zohar. Dans bincha, on a le mot bina. Dans Bincha, c'est pas le même sens, mais on a les mêmes lettres que Bina. Bina, qui veut dire la sagesse.
Bincha.
Donc Bincha. Vaya kishalcha Bincha. Bet nun.
D'accord. Et après.
Chet. Chaf, pardon.
Il n'y a pas de chaf dans Bina.
D'accord. Mais Bincha, c'est la même racine, si tu veux. D'accord. Très bien. Bon, vous avez dit le Zohar. Attention, c'est pas de là, c'est pas du pshat. Hein. C'est du sod. Donc, le Zohar, il dit que on a la paracha Kadesh, elle correspond à... Ça correspond, la paracha Kadesh, ça correspond au Chorma. D'accord, ça correspond au Chorma, le flash. Et la paracha Ve'akiviacha, M. David, correspond à
Bina.
Bina. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a encore deux autres, mais on va expliquer d'abord qu'est-ce que représentent ces deux parachas. Diaïnu, ça veut dire. Chez Lol, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que ma Chorma et ma Bina vont être données à Kadosh, vont être incluses avec Kadosh Baruch Hu? En clair, ça veut dire quoi? On ne comprend pas, nous, ça veut dire quoi? Daïnou, on a dit que c'était accessible à tout le monde, même à un enfant. Daïnou, ça veut dire, Shelo le ishtamej b'chokhmato v'inato shebenasho b'ilti l'Hashem levado. En clair, ça veut dire que, au moment où une personne met les tefilines, c'est quoi la kavana particulière des tefilines, première kavana des deux premières parachutes, c'est de décider de ne pas utiliser chokhma et bina. Chokhma, c'est-à-dire la force du flash, la force de pouvoir innover, d'accord? Et bina, c'est la force de pouvoir développer. Les deux forces qu'on a en nous, de ne pas utiliser ces forces-là, si ce ne serait pour Akadosh Baruch Hu. Je peux l'utiliser pour mon travail. Mais pourquoi je travaille? Pour gagner de l'argent et que grâce à ça, je pourrais servir Akadosh Baruch Hu comme il faut. Donc ça, c'est une kavana pratique. C'est une kavana particulière, spécifique, qu'on pourrait avoir dans les tefilines. Ça, c'est pour les deux premières parachutes des tefilines. C'est quoi la kavana? C'est de réfléchir au fait que je vais soumettre mon intellect à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, soumettre mon intellect à Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire que je vais faire ce que je peux pour que tout ce que je vais réfléchir, quand tout ce que je vais innover, tout ce que je vais développer, vont être pour un Kadosh Baruch Hu. Vechen, libatel velikalel prinat adat shebenafsho, akolel chesed ukvura, shen ira ve'ava shebelibo prinat adat alion akolel chesed ukvura, ameluvash parashat shema ve'hayim shemua. Continue le Zohar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que, on a les deux parashas qui restent, c'est la parasha de Shema et la parasha de ve'hayim shemua. Qu'est-ce que ça représente la parasha de Shema et la parasha de Vayim Shemua? La parasha de Shema et Vayim Shemua, ça, là, on n'est plus déjà dans l'intellect, on passe déjà au sentiment. D'accord? On passe déjà au sentiment. Qu'est-ce qu'on a dans les sentiments? On a le Shema et on a le Vayim Shemua. Ça correspond à Chesed et Gvura. Chesed et Gvura, ça veut dire la bonté et la sévérité, qui sont en vérité, même si après ça va se séparer en plusieurs détails, il y aura plusieurs sphirotes, mais les grandes lignes sont là. Les grandes lignes sont là, qui sont d'un côté Chesed, d'un côté Gvura. Vaïnou, que moi je sais que tout Shulchan Aruch, ainsi qu'il est écrit dans Shulchan Aruch, ça veut dire la mémoire Zakani, je ne t'inventerai du tout. Ce que je te dis, c'est écrit. C'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est pas simplement le Zohar, c'est une halakha, que d'ailleurs c'est une des rares mitzvot dans lesquelles le Shulchan Aruch nous dit quel kavana on doit avoir quand on fait la mitzvah. C'est très très rare. En général, le Shulchan Aruch ne dit jamais la kavana que tu dois avoir. Il laisse ça pour le Zohar, pour les livres de pensée juive. Le Shulchan Aruch te dit la halakha. Et voilà, la halakha, la soukha, elle est cachère comme ça. Les tefillin, ils sont cachères comme ça. Le talit, il est cachère comme ça. Il rentre pas dans la kavana, c'est pas son business. D'accord? Une des rares mitzvot que le Shulchan Aruch donne la kavana à avoir, c'est la mitzvah des tefillin. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les shabed à lève à moire. Il dit que le concept des tefillin, quand une personne met les tefillin, il doit avoir la kavana, yekaven, il doit avoir la kavana, de soumettre, c'est ça, shabed, c'est soumettre, soumettre son cœur vers mort et son intellect. Voilà, Noir Zakin, tu dis, c'est même pas besoin d'arriver jusqu'au Zohar, c'est écrit en Shulchan Aruch.
Mais au niveau du sentiment, c'est au niveau des tefillin du bras ou...
Alors, non, de la tête toujours, on reste dans la tête. D'accord? C'est quoi le concept? Donc le concept est là. Qu'est-ce qu'il dit? Le Shulchan Aruch dit qu'une personne doit soumettre son cœur et son intellect, ça veut dire quoi? Donc apparemment, s'il dit son cœur et son intellect, c'est-à-dire qu'il a pris l'ordre de Rashi, pas l'ordre de Rabbeinu Tam, l'ordre de Parasha. Bon. Donc qu'est-ce qui dit le Shulchan Aruch? C'est ça. Ça veut dire quoi soumettre mon cœur et mon intellect? C'est-à-dire décider que mon cœur et mon intellect vont être que pour un Kadosh Baruch Hu. C'est ça que je pense. La kavana spécifique que j'ai quand je mets les tefillin, c'est quoi? C'est que je fais mon possible pour dédier mon intellect et mes sentiments pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la kavana spécifique qu'on a dans les tefillin. Et ça, c'est quelque chose que c'est même pas un bonus, c'est même pas un luxe, c'est une halakha. L'halakha est écrit dans Shulchan Aruch qu'avant de mettre les tefillin, il faut penser à ça. Avant de mettre les tefillin, je prends 5 secondes, 10 secondes, 1 seconde, le temps que vous voulez, mais pensez à ça. Que quand je vais mettre les tefillin, c'est quoi le concept des tefillin? C'est soumettre mon cœur et mon intellect.
Non, mon intellect, c'est mon intellect.
Mon cœur, mon intellect. On met d'abord le bras, après la tête.
Mais pourtant, tu as dit que le cœur, c'est là-haut.
Pardon?
C'est là-haut. Tout? Tu as dit que c'est les 4 parachutes qui sont là-haut, qui donnent le cœur.
Oui. C'est vrai.
Donc tu dis le cœur avec le bras, alors que c'est le cœur avec la tête.
Parce que là, moi, j'ai expliqué ici, parce que le schéma Vayem Shamot tel que c'est dans la tête.
Mais
le Shulchan Aruch, d'accord, le Shulchan Aruch, il parle des dents en même temps.
Il y a des roches.
Admor HaZaken, là, quand on a parlé les 4 parachutes.
Il y a deux fois cœur.
Deux fois cœur.
Une fois dans le bras, une fois dans la tête.
Admor HaZaken, quand il a parlé ici du. La première partie de ce qu'il a expliqué sur les tefillin, il a amené le Zohar. D'accord? Bon, le Zohar, il nous explique que dans la tête même, il y a les deux. Et le côté droit, le côté gauche. Ça dépend en Rashi ou Rabbeinu Tam. Bon. Mais, ouais, selon Shulchan Aruch ne rentre pas dans l'ordre des parachutes. Shulchan Aruch dit sans rentrer dans ça. Le concept, tu mets les tefillin du bras à côté du cœur. Pourquoi tu le mets dans le bras à côté du cœur? Pour soumettre le cœur. Tu mets les tefillin de la tête sur la tête. Pourquoi tu le mets sur la tête? Pour soumettre la tête. Sans rentrer dans les détails, Kadesh, Vaya, Shema, etc. D'accord? Mais le concept est là. Donc on a eu ici 4 étapes. Première étape, réfléchir comment Dieu est grand. Deuxième étape, réfléchir comment moi je suis petit. Troisième étape, réfléchir que ce Dieu qui est très grand m'a donné une perche. Et quatrième étape, c'est que je réfléchis quelle est la perche. Il y a plusieurs types de perches. D'accord? Il y a une perche pour chaque chose. Donc là, on a étudié, on a donné un exemple sur la perche des téphilines. D'accord? Que la perche des téphilines, c'est une perche qui sert à quoi? C'est une perche qui sert à m'aider à soumettre mon intellect et mon cœur à Kadosh Baruch Hu. Une personne va me dire, oui, mais moi je peux... sans une mitzvah, décider de soumettre mon cœur, mon intellect à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est possible. Mais en utilisant la perche que Kadosh Baruch Hu te donne, t'as beaucoup plus de chances de réussir. Quand j'utilise la perche que Dieu me donne pour soumettre mon cœur et mon intellect à Kadosh Baruch Hu, j'ai beaucoup plus de chances de réussir. Parce que c'est l'outil que Dieu a créé.
C'est
l'exemple de Tefillin.
Pourquoi il ne prend pas un autre exemple, par exemple, Talit?
Ah,
c'est beaucoup plus fort.
Talit tout de suite, on va voir. C'est quoi Talit? Il continue Talit, il dit c'est quoi le Talit? Donc c'est les deux exemples. Bah, Tifat Titit, lorsqu'une personne va s'envelopper, on va donner que ces deux exemples, hein. on va pas se mettre à rentrer dans des kavanot. L'Admor HaZaken n'est pas là pour nous donner des kavanot, il veut simplement nous montrer que dans la kavana, il y a plusieurs niveaux. Quand j'avais dit que quand on avait étudié le chapitre d'avant, on avait expliqué l'importance de la kavana, j'ai dit qu'après, dans la suite, on allait expliquer des détails dans la kavana. L'Admor HaZaken, il t'explique, il dit quand on parle de la crainte de Dieu par exemple, tu vois comment je peux aller à un quatrième. On va aller plus loin encore, on va aller cinquième, sixième.
T'avais dit plus que ça, t'avais dit que d'habitude l'essentiel de la mitzvah c'est de faire la mitzvah,
oui.
Kavana ou pas, mm-hmm. Mais il y a des mitzvot particulières où il faut la kavana.
Dans la tefillin, ça, ne pas avoir la kavana, ça n'invalide pas la mitzvah.
Et dans la tefillah?
Dans la tefillah, ça invalide que sur le premier, que sur la première bracha. Première bracha de l'amida et sur le schéma.
Oui, mais il y en a qui disent que si t'as pas l'amida, si t'as pas la kavana, autant pas faire l'amida.
Ça. Non, je sais pas qui a dit ça.
Si, il y en a dit comme ça.
Non. C'est une manière de dire que ça fait de la peine, quoi. C'est comme tu dis, c'est comme tu fais un oiseau sans aile. Bon, c'est... Comment il dit, le petit oiseau, s'il n'a pas d'aile, il ne peut pas voler, non?
C'est un sketch, là, non?
Donc...
Je te ramènerai la référence, hein.
C'est moi que j'avais
dit. Non, mais c'est enregistré.
C'est enregistré.
Oui, c'est enregistré, très bien.
Ah ben, je ramènerai la référence. Donc, il dit comme ça. Ou bah, tifatitit, yikaven. Quand une personne va s'envelopper des titis, yikaven, il va avoir la kavana. Moi, j'ai katou bezoar, comme c'est écrit dans le Zohar. Le ham shichalav malchut oidbarer, hasherhi malchut kolalamim vechule. Quand une personne va s'envelopper des titis, il va avoir la kavana, comme c'est écrit dans le Zohar. C'est beaucoup plus fort. Le ham shichalav malchut oidbarer, d'amener sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. On va expliquer quel rapport. Asherhi malchut kolalamim, que la royauté d'Akadosh Baruch Hu est une royauté qui englobe tout le monde. Le yachad aleinu le demit vazo. Alors, c'est quoi le concept de titit? C'est quoi le concept? Le concept de titit, c'est d'amener sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport entre titit et mettre sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Rien d'explique. Vehu ke inyan, c'est comme ce qui est écrit. Sam tassim alecha melech. Il y a une des mitzvot qui est Sam tassim alecha melech.
C'est la provocation, en fait, monsieur.
Non, c'est l'anniversaire de Mandy, tu as bien fait de venir.
Il est au courant lui aussi.
Il faut croire.
Sam tassim alecha melech.
T'as des têtes de turc, toi.
Il
y a ceux qui sont au courant et...
Sam tassim alecha melech.
C'est pas le moment avec les cigarettes en moins.
Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la mitzvah? Il y a une des mitzvot de la Torah qui est Sam tassim alecha melech. Tu devras te placer un roi sur toi. Ça veut dire quoi? Sam tassim alecha melech. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais pas de roi. Et quand je veux mettre, quand la Torah te dit, tu devras te mettre un roi sur toi. D'accord? Ça veut dire que maintenant, je vais mettre un roi sur moi. Avant, je n'avais pas de roi. Sam tassim alecha melech, je vais mettre un roi sur moi. Le Zohar explique que c'est le même concept qu'on a dans les téfilis, dans les talis. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Et ça, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch d'ailleurs. C'est écrit dans le Zohar. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Le concept du talit, c'est quoi? Le concept du talit, c'est s'envelopper. Ça veut dire quoi, s'envelopper? Je m'enveloppe de quoi? Le Zohar dit, c'est je m'enveloppe de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il donne un exemple, le Zohar. Il dit de la même manière que quand la Torah nous dit qu'on doit se nommer un roi, elle dit pas tu vas te nommer un roi. Elle dit tu mettras sur toi un roi. C'est un petit peu comme si on te dirait tu vas t'envelopper d'un roi. Parce que un roi, c'est pas quelque chose qui va toucher ma main, mon bras, mon pied. Ça va me prendre toute mon existence. Il va, je sais pas comment dire. Le roi va régner sur moi. D'accord? C'est pas ni sur mon bras, ni sur ma tête, ni sur mon pied. De la même manière, quand on dit qu'on s'enveloppe avec le talit, d'accord, c'est pas que j'enveloppe ma main avec le talit, j'enveloppe mes pieds avec le talit, j'enveloppe ma tête avec le talit. Non, c'est pas ça. C'est j'enveloppe mon corps, je m'enveloppe avec le talit. Ça veut dire quoi? Dit le Zohar, le concept de s'envelopper avec le talit, c'est quoi? C'est amener la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur soi. Ve'azai. Et à ce moment-là. Ah, non, Ve'azai, c'est déjà autre chose. C'est déjà, bon. Donc on a le Morazaken ici. On a développé aujourd'hui deux nouvelles étapes, deux nouvelles phases, d'accord? On a expliqué le concept de la perche. On a expliqué que dans les perches, il y a plusieurs types de perches, et qu'on a donné un exemple avec Talit et Tfilin, quelle était la perche? Dans les Tfilin, la perche était pour soumettre le cœur et l'intellect à Kadosh Baruch Hu. Dans le Talit, la perche que Kadosh Baruch Hu nous donnait, c'est pour amener sa royauté sur nous. Ve'azai. Normalement.
C'est assez proche, à être soumis à la royauté de Dieu, et soumettre son intellect et son
justement,
cœur.
Non, ça c'est ce que c'est je vais expliquer. Oui, c'est très proche. Mais la nouveauté qu'on a dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas... je soumets ni mon cœur ni mon intellect. C'est pas défini par rapport à un membre particulier. Ça enveloppe la personne.
Quand quelqu'un, il a sa tête et ses membres, ça veut dire...
Il reste plus rien.
Ça garde nous, c'est fini.
Je vais essayer de donner un exemple. D'accord? C'est comme on amène en chassidut, on dit qu'il y a... Il y a des forces dans le corps qui ne peuvent pas être définies comme étant attachées à un membre particulier. Par exemple, la volonté. La volonté. La volonté, c'est quelque chose que je ne peux pas dire ma main, elle veut, mon pied, il veut, ma tête, elle veut. C'est faux. Quand une personne veut quelque chose, c'est son corps entier qui veut. On explique la même chose sur le plaisir. C'est vrai qu'on peut avoir un plaisir sur certains membres, mais de manière générale, un vrai plaisir, c'est un plaisir qui prend tout le corps. D'un autre côté.
C'est parce qu'il prend la tête que.
Non, ça prend tout le corps. En tout cas, dans la volonté, c'est clair. Dans la volonté, on le voit vraiment.
C'est dans le cœur.
Non, pas du tout. La volonté, c'est pas dans le cœur. La volonté, ça s'explique. La volonté, ça prend tout le corps d'une personne. C'est pas défini dans la tête ou dans les pieds ou dans le corps. Ça enveloppe toute la personne. Donc, pourquoi j'explique ça? Pour dire que.
Oui. Non, mais l'impulsion.
Physiologiquement, c'est la tête.
L'impulsion du départ, dans le cœur. La volonté du départ. Après ça, messieurs, parce que quand je dis que c'est dans la tête, vous me dites le cœur avant.
Peut-être.
Non. Attends, je dis le cœur avant, vous me dites
la tête. Il a parlé de.
On va prendre l'exemple de la volonté.
Plaisir.
La tête. On prend l'exemple de la volonté.
C'est la tête qui sécrète partout,
partout dans le corps. Avec les terminaisons nerveuses, etc.
Partout, mais c'est vrai.
On prend l'exemple de la volonté. Peut-être que la volonté va s'exprimer après dans mon cœur. D'accord. C'est-à-dire que comme je veux quelque chose, donc, elle va envoyer un impact dans le cœur qui va dire, bon, puisque je veux ça, donc, tu vas donner une envie, et la tête, il va réfléchir comment arriver à ma volonté. Pas de problème. Je vais utiliser mes pieds pour courir pour aller vers ma volonté. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Les membres, après, il y a plus différents membres qui vont être utilisés après. Ça ne dérange pas.
Oui.
Ce que je vais expliquer simplement que la volonté, au niveau le plus profond, elle n'est pas liée à un membre particulier. La volonté est quelque chose qui enveloppe le corps entier. Pourquoi j'explique ça? Pour expliquer la différence qu'il y a entre talit et tfilin, entre les tfilin et le talit. Le concept des tfilin, c'est que je veux soumettre mon cœur, et je veux soumettre ma tête. Ça veut dire, c'est quelque chose de défini. Je vais réfléchir comment mes pensées vont être pour Akadosh Baruch Hu, je vais réfléchir comment mes sentiments vont être pour Akadosh Baruch Hu. Le talit, c'est plus fort.
Oui, cher. Qu'est-ce qui reste?
Qu'est-ce qui reste? Oui.
Si on enlève la tête et le cœur, qu'est-ce qui
reste? Il reste rien.
Dans, je veux dire, dans un être humain.
Le talit.
Bien sûr qu'il reste le doigt et le pied, mais oui. Le doigt, il fait quelque chose sur le cœur ou la tête.
Mais ce qu'on veut dire, c'est que dans le talit, le sentiment que je vais créer, enfin le sentiment, je veux dire, le niveau que je vais amener sur moi va être tellement fort, que ça va être encore plus fort qu'un sentiment. Que ça pourrait même pas être défini en tant que cœur ou en tant qu'intellect. C'est quelque chose qui prend toute ma personnalité. C'est plus fort. Et c'est pour ça qu'il amène l'exemple, il dit « Sam tassim alecha melech ». La mitzvah qu'on doit se placer un roi. C'est très bizarre comme mitzvah. C'est très bizarre comme la manière comment c'est formulé. On dit, tu dois te nommer un roi. Ça veut dire quoi te placer un roi? C'est ça. J'explique le concept de se placer un roi. C'est-à-dire qu'un roi va envelopper le peuple. Bon, le Zohar explique comme ça. Donc en d'autres termes, c'est vrai que ça ressemble beaucoup. C'est vrai que ça ressemble
plus,
beaucoup, mais le niveau du talit.
Non, mais en plus, c'est vrai. Ouais. En plus, c'est une autre façon de poser la question que je pose.
C'est pour ça que le Shulchan Aruch.
Il va plus loin, lui.
Le Shulchan Aruch, oui. Le Shulchan Aruch n'impose pas. J'ai très bien entendu. Le Shulchan Aruch n'impose pas la kavana sur le talit. Il n'impose la kavana que sur les tefillines.
Allez.
Bon, parce que dès qu'on a sur les tefillines, on a déjà le principal. Après, c'est des kavanotes de kabbali, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir cette kavana. Mourazaka veut nous simplement montrer comment ça existe.
Qui mettent pas le talit avant la bar mitzvah, avant le mariage, ils sont pas de Som Tassim Alecha Melech, de filles.
Ouais.
Oui, d'accord. Oui, mais ils sont en talit katan.
Non, c'est pas ça, le talit, on n'est pas enveloppé.
Pas enveloppé.
On me la fait pas, moi.
Pas enveloppé.
Oh. Ou alors, si c'est maintenant juste on s'habille,
le talit, le tissit katan, c'est pour Irat Shamaim. Pour la crainte d'Akadosh Baruch
Hu. C'est pas comment
envelopper. C'est pas comment envelopper. Le concept de s'envelopper avec un talit, d'accord, et que le conseil de s'envelopper avec un talit, que tu dois t'envelopper la majorité de ton corps, c'est-à-dire que c'est pas envelopper le corps, c'est envelopper la personne. C'est-à-dire que c'est un niveau qui est encore plus fort. C'est pas simplement mon cœur qui est annulé à Kadosh Baruch Hu, c'est pas simplement ma tête, c'est mon corps entier. Vous allez me dire quelle est la différence. Peut-être que dans les faits, il n'y a pas de différence, peut-être. Mais ça montre un niveau qui est plus profond. D'accord? Qui est tellement profond qu'on peut même pas le définir comme étant attaché au cœur ou comme étant attaché à l'intellect. Pour ça, en passant, on nous dit que par exemple, c'est pour ça que quand une personne est très bessimra, soit il marie sa fille par exemple, il va se mettre à danser. C'est-à-dire tellement il va avoir un grand plaisir, Écoute bien Yaakov, tu vas marier ta fille bientôt.
Chirel ? Ça va bien.
C'est une angoisse, hein. Tellement il est bessimra, que naturellement, il se met à danser. Naturellement, il se met à danser. Pourquoi il se met à danser ?
Ou alors, pas du tout.
D'accord ?
Ou alors. Oui, en principe, il danse sa fille, moi, je pense.
Non, on danse. On dit qu'un père, il a plus de simra quand il marie sa fille que son fils, comme ça.
Elle a plus de simra quand il marie sa fille.
Ça, c'est écrit. Elle a plus de simra quand on marie sa fille que son fils.
Je dirais.
Ah bon ?
Ouais, ça, c'est écrit. Donc,
Oui, parce que la fille se débarrasse.
Qu'est-ce qui me reste ?
Vous en avez plus de simra.
Non, qu'est-ce qui me reste ? Je pensais que j'en ai pas eu beaucoup, alors qu'est-ce qui va rester ?
Donc, pour reprendre mon exemple.
Il y a des enfants, il y a beaucoup. Ça commence,
hein. Ah, il y a des petits-enfants, après, c'est un autre plan, ça.
C'est le bon plan.
Et alors, qu'est-ce qu'on dit pour les petits-enfants, là ? La petite fille, le petit-fils.
Ouais.
Les petits-enfants, c'est le top.
Ah oui,
c'est le top. Les petits-enfants, c'est le kiff.
C'est une nouvelle vie.
Que les avantages.
Pas besoin de la gronder. Les gronder.
Ah, que les avantages.
Donc.
C'est qu'avant, comment les grands-parents ils font avec nos enfants, on a tout compris.
Quand j'ai dit, proche de cet exemple-là, c'est qu'on dit que pourquoi la personne va se mettre à danser avec ses pieds ? Pourquoi la personne se ça avec ses pieds? C'est pour montrer que le plaisir à ce moment-là a été tellement fort que c'est le corps entier qui a été pris.
Jusqu'au terminal nerveux du pied.
Et même les pieds, ils ont envie de danser. C'est pas que je dis, bon, il faut que je sois Bessimra, donc si je suis Bessimra, il faut que les pieds bougent. C'est naturel, ça saute. Je saute. Bon, des fois, il faut dire un peu les chaïms pour...
Ça, ça, c'est un niveau, ça. D'accord. Excuse-moi, mais c'est un niveau, ça.
Bon, on verra quand tu marieras ta fille.
Non, non, c'est un niveau, ça. Il faut que ça passe par le cou, d'abord.
Béhazaï, à ce moment-là...
Non, c'est pas ça, hein. Il parle pas d'un transfert physiologique. Hein.
Oui, oui, bien sûr.
Le coup, c'est pas
évident. Quand une personne va passer par ces quatre étapes, dis-moi, j'ai essayé, moi. Le matin, j'ai pris quelques secondes avant de mettre les talits, avant de mettre les tefillin, j'essaie de réfléchir à ça. D'accord ? Il dit, af im becholzot, lo tipolavema opachat beidgalut libo. Même si dans les faits, j'ai essayé, et ça marche pas. On verra après pourquoi ça marche pas. Pourquoi dans certains cas, ça marche pas. Même si j'ai essayé, normalement, il y a toutes les raisons de marcher. Psychologiquement, il y a toutes les raisons que ça marche. Si tu réfléchis à la bonne chose, tu réfléchis à comment Dieu est grand, comment toi t'es petit, comment il donne une perche, psychologiquement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Bon. Mais on verra après pourquoi, dans les faits, ça ne marche pas toujours.
Parce qu'à l'arrivée, tu
vas voir, on va voir ce qu'il y a de Morazaken. Alors, Vazai, à ce moment-là. Af im becholzot le tipol alav ema vafarad. Même si, avec tout ce que j'ai essayé, je ne vais pas avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc on parle pas d'un bénoni, on parle d'un quelqu'un de simple qui a essayé, ça ne marche pas. Beit galut libo. Quand on dit qu'il n'a pas, ça veut dire, il dit peut-être qu'il y a un sentiment qui s'est réveillé au fond de moi, mais en tout cas, je ne le sens pas.
Inconscient.
D'accord ? C'est inconscient. Tu vas me dire, bon, tu dis en vérité, tu as une âme juive, ton âme, elle a senti, d'accord ? Ton âme, elle a senti, mais... Ton âme, elle a senti, peut-être, mais moi, je sens pas que... Je sens pas ça en moi. Mikol makom, quand même. Mechar, shemekabel alav, ol malchut shamayim. Puisque la personne a quand même fait un effort. Elle a donné 4 étapes, ou bien au minimum 3, d'accord ? Dans lesquelles j'ai réfléchi. Et dans les faits, j'ai accepté sur moi, ok, peut-être je sens pas, peut-être, mais j'ai accepté sur moi le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on va expliquer dans les quelques lignes qui vont suivre. Qu'est-ce que ça veut dire, accepter sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu? C'est un peu spécial comme terme, accepter sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne peut pas servir Akadosh Baruch Hu par amour? Bien, même par crainte, mais ça veut dire quoi, accepter? On a l'impression qu'on est des esclaves. Elle va expliquer. Mikol Makom. Mais achar shemekabel alav malchut shamayim, puisque la personne, même s'il n'a pas eu de sentiment, puisqu'elle a accepté sur elle la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ou mamshich alav irato beit galut marshavto urtsono, et j'ai amené la crainte d'Akadosh Baruch Hu de manière dévoilée au moins dans ma pensée. C'est-à-dire que j'ai pensé à la chose, j'ai pensé au fait que Dieu est grand, que moi je suis petit, tout ce que j'ai dit, j'ai pensé à ça, je l'ai compris. Bon, mais malheureusement, pour des raisons qu'on verra après, je ne l'ai pas senti. Ok, mais c'est quelque chose qui peut-être n'était pas dévoilé dans mes sentiments, mais c'était dévoilé dans ma volonté. D'accord, dans mon intellect, c'est dévoilé aussi dans ma volonté, c'est-à-dire que j'aimerais que ce soit comme ça. J'ai réfléchi, je pense, j'aimerais que ce soit comme ça. J'ai envie d'être un bon juif maintenant. Chez mes mots, Vekabalazo, Iyamitit, Blishum Safek. Qu'est-ce qu'il dit là de Morazaken? Ce moment-là, où j'ai accepté sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, mais dans les faits, ça n'a pas marché. Tu vas dire, bon, tu as essayé, ça n'a pas marché. Try again, tu réessayeras une autre fois. D'accord? Next time. Tu dis non. T'as déjà tout gagné. T'as déjà tout gagné. Pourquoi t'as déjà tout gagné? Parce que le fait que tu as accepté sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu, cette acceptation est véridique. Même si t'as envie de te dire je sens rien, donc c'est faux, donc ça n'a pas marché, cette acceptation du joug d'Akadosh Baruch Hu est véridique. Tu as vraiment accepté le joug d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? On a l'impression que t'es un commercial, d'accord, qui est venu me voir, il est venu me présenter son produit, il m'a pas convaincu, ben il m'a pas convaincu. Qu'est-ce que tu me dis? Non, même s'il t'a pas convaincu, en vérité, il t'a convaincu. Il m'a pas convaincu, je suis pas convaincu maintenant. Je te dis non. Sha'aré, il explique. Sha'aré, il teva nefashot kol Yisrael sholimrod de melech akadosh itbarer. C'est la nature. On l'a appris dans le chapitre 18.
Oui.
C'est la nature qu'il y a chez chaque personne du peuple juif de ne pas se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Rav Stenzat ici amène un exemple très intéressant. Il c'est comme, on va voir, c'est comme la force de la parole, le fait de pouvoir parler. C'est quelque chose qui est inné. On est avec. On est avec la capacité de pouvoir parler. Il y a des personnes qui vont apprendre plus vite à parler, d'accord ? Il y a des enfants que ça va leur prendre plus de temps à parler. Mais c'est juste une question de temps. C'est une question de temps, parce qu'on naît avec cette capacité. Le médaber, l'homme, naît avec cette capacité de parler. D'un autre côté, vous allez prendre un oiseau, par exemple, et vous allez lui apprendre à parler. L'oiseau n'a pas la capacité de parler. L'oiseau ne sait pas parler. Ce qu'on peut lui faire, c'est qu'on peut essayer de l'entraîner, de l'éduquer,
perroquet,
à répéter certaines phrases. Non, Admor Hazaken, il pose une question très simple. Il dit, imagine-toi que j'ai un enfant en face de moi. L'enfant par défaut, voilà. Imaginez-vous, je mets un enfant dans une forêt, tout seul. Est-ce qu'il va apprendre tout seul à parler? Bébé, d'accord? Peut-être qu'il n'apprendra pas, très bien. On va dire que si je le mets avec d'autres enfants, je mets plusieurs enfants ensemble, Avec un au bout d'un certain temps, ils vont commencer à communiquer. C'est normal qu'ils vont commencer à communiquer, parce que c'est quelque chose qui est inné. Si maintenant, regardez, on va suivre l'exemple de la Mouazakène, je vais amener mon enfant chez un spécialiste. Et le spécialiste va faire que mon enfant, à 10 mois, il parle. Il va lui faire des tests, etc. Au bout de 10 mois, il parle. Est-ce que ça veut dire que mon enfant, le spécialiste, a créé quelque chose de nouveau chez mon enfant? Non. Il n'a rien créé de nouveau chez mon enfant. La seule chose qu'il a fait,
il a suscité
plus rapidement quelque chose qui existait déjà. Alors que chez l'oiseau, si tu ne lui apprends pas, si tu n'as pas un spécialiste qui va lui apprendre, il ne saura jamais parce que ce n'est pas en lui. C'est la même chose. Qu'un rapport avec notre exemple, très simple. Il dit, aimer et craindre un Kadosh Baruch Hu, c'est inné chez nous. C'est inné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je réfléchis au fait que je reçois sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ma Neshama a accepté le joug d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est inné. Et ça s'est passé comme ça, parce que c'est pas un commercial qui est en train, c'est pas un commercial qui est en train de me convaincre pour acheter un nouveau produit.
D'accord.
D'accord? Et que là, à ce moment-là, s'il m'a pas convaincu cette fois-ci, ben, il m'a pas convaincu.
Il joue sur du jour, en vérité.
Là, c'est pas la même chose.
Depuis Abraham Avinu.
Là, c'est pas, depuis Abraham Avinu. Là, c'est plus la même chose. Parce que là, en vérité, c'est quelque chose qui est inné chez moi.
Ah bah, mais je vous dirais.
Et quand la personne va réfléchir, quand la personne va réfléchir, ah là on a Ira Mesouterrane. Quand la personne va réfléchir, il va réfléchir dans sa tête au fait que j'accepte sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu. On a dit quatre étapes. Je réfléchis comment Dieu est grand, comment je suis petit. Mais ça reste dans la réflexion. J'ai pas réussi à le ressentir. Il dit que c'est pas grave. Même si tu restes dans la réflexion, en plus que c'est quelque chose qui est inné en toi. Donc à ce moment-là, le fait que tu as reçu le joug d'Akadosh Baruch Hu en toi, c'est quelque chose qui est véridique. Ah, vous allez me poser la question, mais si c'est réellement véridique, alors pourquoi je l'ai pas senti? On va expliquer après. On va expliquer pour d'où vient ce blocage. Il y a un blocage particulier qui fait qu'on ne sent pas les choses. Mais quand je réfléchis à quelque chose, d'accord, quand je pense à quelque chose, et ça c'est valable que pour ça. Parce que quand par exemple, imaginez-vous que je vais réfléchir pourquoi, je sais pas moi, pourquoi de l'eau c'est pas bon. Voilà, je vais réfléchir pourquoi de l'eau c'est pas bon. Je vais réfléchir, je vais comprendre pourquoi l'eau c'est pas bon, mais dans les faits je vais pas le sentir. Bah, tant que je le sens pas, ça veut dire que je peux peut-être réfléchir autant que je veux, mais ça veut dire pour moi, j'ai pas accepté l'idée. Là, il n'y a pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est...
On peut
ni l'aimer, ni pas l'aimer.
Voilà. C'est indispensable, mais on peut pas l'aimer.
Non, je m'excuse. Si tu as vraiment soif, tu vas aimer l'eau quoi qu'il arrive.
C'est pas une question d'aimer.
Si, tu vas aimer
l'eau. On aime
pas. Donc il dit comme ça. Le Kabbalazo et Yamitid Bishum Safek. Je ne sais pas quelle ligne on est. On a la ligne qui commence comment? On a la ligne qui commence Beit Galout.
Ou
Amitid. Ou
Amitid,
oui. Le Kabbalazo et Yamitid Bishum Safek. Le fait que la personne a accepté sur le joug d'Akadosh Baruch Hu, cette acceptation est véridique. Même si je n'ai pas senti. Je vais dire oui, mais j'ai fait toutes les étapes et j'ai pas senti. Ça n'a pas marché. J'ai fait la recette, ça n'a pas marché. Il dit non. C'est véridique. Pourquoi? C'est naturel, c'est inné. C'est comme la capacité que l'homme a de pouvoir parler. C'est inné. J'ai ça en moi. De pouvoir, d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. A Torah shelomed, a mitzvah sheoseh mechabat kabbalazo. La Torah que je vais étudier suite à cette acceptation du joug d'Akadosh Baruch Hu. Une acceptation qui peut-être s'est arrêtée seulement sur le plan intellectuel. D'accord? Peut-être. D'accord? La Torah qui va suivre cette acceptation-là. Ou bien les mitzvot qui vont suivre cette acceptation. Ou mechamat amshachat ayrash mocho, nikraot beshem avodat shlema. Ça va être appelé une avodat Hashem. Avodat Hashem. On entend souvent le mot avodat Hashem. C'est quoi avodat Hashem? Dans avoda, on a le mot eved. Eved, c'est-à-dire esclave, serviteur.
Oui, service.
D'accord? C'est-à-dire que le fait de servir Dieu, c'est quelque chose qui est inné en nous. Donc quand je vais réfléchir au fait que je dois le faire et je vais le faire, même si je ne l'ai pas senti, ça va être pour une raison particulière que je ne l'ai pas senti. Mais puisque j'ai réfléchi au fait que je devais le faire et je l'ai fait, donc j'ai toutes les qualités, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que j'ai fait une mitzvah avodat Hashem. J'ai fait une mitzvah avodat shlema, c'est-à-dire que j'ai servi à Kadosh Baruch Hu. Ah, mais j'ai pas senti. Il manque une étape là. Tu veux dire, non, normalement, il faut réfléchir à la chose, il faut sentir, et après, je fais la chose. Moi, j'ai que réfléchi et j'ai fait. Et puis, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que le fait que t'as pas senti, c'est pour une raison particulière qu'on va étudier tout de suite. Mais le travail que tu as fait était parfait. Pourquoi? Parce que tu as accepté sur toi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Le fait d'y avoir réfléchi, c'est un chidouj de Mourazaken, ça. Le fait de réfléchir au fait que j'accepte sur moi le joug d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est quelque chose qui est inné en moi, c'est considéré comme si je l'ai fait. Ça veut dire que, en d'autres termes, quand je vais le matin avant de mettre les tefilines, je vais réfléchir au fait que pour mettre les tefilines, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'annuler à Kadosh Baruch Hu. Je vais me soumettre mon cœur et mon intellect à Kadosh Baruch Hu. On a dit que c'est la halakha, ça ne m'a pas le Zohar. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Même si je ne le sens pas, juste j'y réfléchis. D'accord? Il dit le Shrono, il dit Yekaven. Kavana, ça veut dire, comment on peut traduire Kavana? Réfléchir. D'accord?
Ouais.
Attention. C'est pas, j'ai pas senti maintenant. C'est lui, c'est pas grave. Même si t'as pas senti. Ça s'est appelé que tu es l'esclave de Kadosh Baruch Hu.
C'est encore mieux d'ailleurs.
Ou Mechamat Amshachat. Kechol Avodat.
C'est l'Ishma à ce moment-là. Si tu, oui, à la limite, si tu veux ressentir, t'as un plaisir, c'est pas forcément l'Ishma. Alors que là, c'est l'Ishma.
Là, il n'est pas rentré dedans encore. Là, on veut simplement savoir, est-ce que le fait que je n'ai pas senti... Non, mais il faut bien comprendre.
C'est probable.
Le problème qu'on a ici...
J'ai vu tourner les pages, hein.
Le problème qu'on a ici, c'est très simple. C'est que on dit qu'il y a une mitzvah de craindre à Kadosh Baruch Hu. Or, le problème ici, c'est que moi, j'ai réfléchi au fait que je devais le craindre, mais dans les faits, j'ai pas senti que je l'ai craint.
Oui.
Donc, j'ai pas eu de sentiment.
C'est comme la mitzvah.
Donc on voudrait dire que je n'ai pas fait la mitzvah de craindre à Kadosh Baruch Hu. Moi, Zekin te dit non, tu as fait la mitzvah. Le fait d'y avoir réfléchi, c'est déjà suffisant. Le fait d'y avoir réfléchi à la, que je crains Kadosh Baruch Hu et d'avoir fait une mitzvah avec ça, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est inné en moi. Ou mechamat amshachat erash mimocho, pardon, kechol avodat eved ladono ou malko. C'est comme le travail et le service qu'un esclave, qu'un serviteur aurait fait pour son maître et pour son roi. Quand le roi, il dit au serviteur, il lui dit, va me faire ci. Mais non, on s'en fiche si le serviteur il sent ou il sent pas. On n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est que le serviteur fait. D'accord? Le serviteur fait ce qu'on lui a demandé. Fait ce qu'on lui a demandé sans poser de questions. On aurait dit, il se la ferme. Pose pas de questions, tu fais et c'est tout. Quand moi maintenant, je réfléchis au fait que je m'annule à Kadosh Baruch Hu et que Dieu est très grand, moi je suis tout petit, comment est-ce qu'on a expliqué? Et que je fais la mitzvah avec ce moteur-là, même si je ne l'ai pas senti, c'est considéré avodat Hashem. C'est pas au top niveau. Le top niveau, c'est en fait que je le sente.
Pourquoi c'est pas au top niveau que je le sens?
Le top niveau, c'est que je le sente, parce que la mitzvah, c'est de irat Hashem, de craindre dans le cœur. C'est le top niveau. D'accord? Mais le chidouche de Mourazaken ici, ce qu'il veut te dire, c'est que même si tu n'as pas senti que tu l'as senti, oui, c'est ça. Même si tu n'as pas senti que tu as senti, en vérité tu as senti. Seulement, je ne t'ai pas dévoilé. Pourquoi je ne l'ai pas senti? On va expliquer. Mashi Enken, im lomed, ou mekayem a mitzvah be'ahava levada, kede le dafkabo le de torato mitzvata. Si une personne va accomplir une mitzvah, aura accompli une mitzvah par amour. D'accord? Et moi, j'accomplis même la mitzvah par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. J'accomplis la mitzvah par amour pour Akadosh Baruch Hu, sans crainte. Donc, ni esclave, ni rien. Je réfléchis pas au fait que Dieu est très grand, moi je suis tout petit. Je réfléchis au fait que moi, j'ai envie de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Je pense pas que je crains Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Ena, nikret, beshem, avodata, eved. On peut pas appeler ça le travail, le service d'un esclave. C'est pas un esclave. Un esclave, il a pas envie de faire ce qu'il fait.
Pourquoi c'est marqué Beata, Eshem et Lokerta?
Bien, on n'a pas dit qu'il n'y a pas mieux d'Avat Hashem. Là, elle explique que si tu fais la mise que par crainte d'Akadosh Baruch Hu, que par amour, tu n'as pas la crainte. Va Torah Amra, on va arriver à tout ça. Là, on explique pourquoi la crainte est très importante et pourquoi il faut commencer par la crainte.
Oui, d'accord.
Il me semble que Rabbi Akiva ne parlait pas sur ça, mais bon. Va Torah Amra, la Torah a dit, va Vatem et Hashem Elokechem. La Torah a dit...
Quand il me semble, oui, il est
parfait. Nul n'est parfait, excuse-moi.
La Torah... la Torah a dit, va vatem et Hashem Elokechem. Si je fais la mitzvah que par amour.
C'est marqué Bessimra.
Oui.
Bessimra, tu sens rien, franchement.
Si,
c'est dur, quoi.
Ça veut dire comme ça. Si tu me dis que la Torah te dit, on n'a pas dit qu'il ne faut pas d'amour dans la Kadosh Baruch Hu. On te dit que la Torah te dit que va vatem et Hashem Elokechem, vous devrez servir à Hashem. Donc si moi je veux venir, je veux dire, moi j'ai pas envie de servir à Kadosh Baruch Hu par crainte. Moi je veux servir par amour. Je pense que Dieu est très grand, j'ai envie de m'approcher de lui. On te dit, c'est bien beau, peut-être ta mitzvah va être au top niveau, tu vas avoir des sensations extraordinaires. Et c'est vrai qu'il y a certainement une personne qui fait une mitzvah par amour, on peut avoir une sensation qui est plus forte que la crainte.
Oui, c'est pas on peut,
on a certainement une sensation qui est plus forte. Mais la Torah n'a pas dit ça. La Torah a dit, va-t'em et Hashem Elokechem. La Torah a dit, vous allez servir Hashem votre Dieu. À un autre endroit, c'est écrit aussi, ça c'était dans le Chumash Shemot, dans le Chumash Devarim, c'est écrit, voto ta'avodou. Quand? Qu'il faudra servir à Kadosh Baruch Hu. Dans Avodou, on a le mot Eved. Eved qui veut dire esclave. Kmo shekatou bezoar, comme ce qui dit le Zohar dans la parashat Be'ar, ki ay Torah de Yavin ale ol bekadmita. Il dit comme ça, c'est comme le taureau, que de Yavin ale ol bekadmita, qu'on lui met un ol, un joug bekadmita. Ça veut dire que pour le faire travailler, on lui met le joug. D'accord? Pourquoi? Begin et Af Kamine Table Alma, pour que de ce taureau-là va sortir du bien pour le monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un taureau, il travaille, il n'est pas bénévole, il n'a pas envie de travailler pour toi. Tu lui casses les pieds. Tu crois que tu vas venir, t'arrives, tu vas dire oui, je t'attendais depuis tout à l'heure, j'ai dormi toute la nuit, je t'attends, je veux bosser. Il veut pas travailler.
Oui, mais...
D'accord? Qu'est-ce qu'il fait le taureau? Le taureau, une fois que tu vas lui mettre le joug, là il va travailler. Oui. Dis le Zohar, d'accord? Pour l'instant on entend ce que le Zohar dit. Dis le Zohar, d'accord? Que c'est la même chose. Et quand un juif doit faire une mitzvah, il doit faire une mitzvah comme ce taureau-là. C'est quoi comme ce taureau-là? Achinam, il dit le Zohar, il tarich les varnaches, les kavala, les ol malchut shamahim, les kadmita. De la même manière, dit le Zohar, un homme doit recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu bekadmita, ça veut dire en premier temps. C'est ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. C'est intéressant ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit que le taureau, une fois que tu l'as mis le joug, qu'il a commencé à travailler, il peut prendre un certain goût au travail qu'il fait. Et ça peut arriver des fois que même quand tu veux lui enlever le joug, tu dis bon, on arrête de travailler, il veut continuer. C'est possible. C'est possible. Le Zohar dit que le taureau peut prendre un certain goût. Il peut aimer le travail qu'il fait. D'accord, ça peut l'intéresser, il peut vouloir continuer, c'est du sport, je sais pas ce que ça peut être pour lui. Mais tant que tu ne mets pas le joug, il démarrera pas. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit la même manière chez l'homme. Même si c'est très important Avat Hashem, très important là, et Bezrat Hashem, on aura des chapitres pour expliquer pourquoi c'est très important et on peut pas s'en passer, c'est clair. D'accord? Ça c'est surtout dans le monde orthodoxe, c'est très important de rappeler à chaque fois le concept de Avat Hashem, l'amour de Dieu. Parce que on a toujours tendance, surtout quand on étudie beaucoup de Halakha, quand il dit ça s'interdit, on a toujours tendance à bifurquer vers le côté ira, vers le côté crainte d'Akadosh Baruch Hu et un peu oublier le côté ava. On verra Bezrat Hashem après. D'accord? Mais le Zohar nous dit que c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler d'abord, comment on dit, bitrilou chimou, ou chimou trilou. On va commencer par trilou, ça veut dire d'abord par la crainte d'Akadosh Baruch Hu, après il y aura un amour, après il y aura encore un autre amour, et après il y aura encore une autre crainte.
C'est ça.
Quatre étapes. D'accord? On va expliquer après ce que c'est Bezrat Hashem. Là pour l'instant on est dans les premières étapes. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit de la même manière que...
C'est le fils d'Abraham, et ensuite Abraham, c'est le fils
oui.
de... Il n'y a pas souple comme ça.
Oui, alors il pose une question à Lionel, il dit, est-ce que c'est le même circuit pour une mitzvah positive et négative? Il a dit, l'Admor HaZaken, au début du Perek Manef, qu'on a étudié la semaine dernière, il a dit que bien que normalement le moteur de tout ce qui est positif est l'amour, et le moteur de tout ce qui est négatif est la crainte, donc normalement, comme ça il a commencé avec le Perek Manef, d'accord? Donc normalement, pour faire une mitzvah positive, je devrais utiliser que l'amour. Il dit, non, c'est pas comme ça. Même pour faire une mitzvah positive, il faut d'abord réveiller un petit peu la crainte. C'est comme ce taureau.
Comme
le taureau. D'abord, tu lui mets le joug pour commencer à bosser. Après, le taureau ne va pas commencer à bosser bénévolement pour toi. Il faut que tu lui donnes envie. Il faut que tu lui mettes le joug. Ve iyai lo ishtakar gabe. Et le Zohar va très loin. C'est méchant ce qu'il dit, le Zohar. Le Zohar, il dit, ve iyai lo ishtakar gabe. Et si ceci ne se trouve pas chez lui, ceci, ça veut dire quoi?
La crainte.
Lo char yabé gdusha. La gdusha ne peut pas résider en cette personne. D'accord? Comment il avait dit le Zohar? Rappelez-vous, comment il avait dit le Zohar? Le Zohar avait dit que, la même manière que le taureau, d'abord on lui met le joug, parce qu'un taureau ça peut faire des dégâts aussi. Mais si on veut qu'il y ait du bien qui sort, table et alma, ça veut dire si on veut qu'il y ait du bien qui sort pour le monde, ça veut dire on veut quelque chose de bénéfique qui va sortir de ce taureau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui mettre un joug et là on va focaliser, comme il dit le verset, Ravtvot Bekoar Shor, on va focaliser l'énergie de ce taureau vers le bien. Le Zohar dit c'est la même chose. L'homme a une énergie, l'homme c'est un taureau. Si tu ne focalises pas son énergie par l'intermédiaire de la ira, de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Lo char yabé gdusha. La gdusha ne peut pas résider dans cette personne. Ou beraya même nasham, d'accord, dav kufida la famoud bet, chez kol adam, tsarichilot, bichte prinot ou madrigot. Moi, je vais un peu vite parce que l'Admor HaZaken explique longuement, surtout dans ce chapitre, il explique longuement. Il dit, quelle heure il est, s'il vous plaît, j'ai pas mon tour.
11h, moi le faire. 10h, moi le faire.
C'est... Ah, on va s'arrêter ici, alors, parce que c'est un autre sujet, là. Parce que la semaine prochaine, dans ta chaîne, on va expliquer le concept de Ben et Eved.
Oui, parce qu'il y a les deux.
Oui.
Banim, Atem, Kevanim.
Juste pour résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui, aujourd'hui, on a innové deux nouvelles étapes. La semaine dernière, on a expliqué que d'abord la personne s'imagine comment Hachem est très grand et comment moi je suis tout petit. Aujourd'hui, on a rajouté que je réfléchis comment ce Hachem qui est très grand, il m'a donné une perche. Des perches qui sont les mitzvot. Sans penser à une mitzvah particulière. Quatrième phase, on a expliqué c'est quoi? Je pense au fait que dans chaque mitzvah particulière, il y a quelque chose qui peut se faire. Par exemple, on a donné l'exemple du talit et des tefilines. Les tefilines, c'est pour soumettre le cœur et l'intellect à Kadosh Baruch Hu, et le talit, c'est pour amener sur soi la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de manière à ce qu'elle m'enveloppe. Très bien. Maintenant, la Gemara Zaken dit, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? On n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'expliquer pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait tout ça et je sens pas? C'est-à-dire, je comprends. Ça arrive très souvent, on réfléchit à quelque chose, on le comprend parfaitement, mais je sens pas. On verra la semaine prochaine pourquoi on sent pas. On verra que c'est par rapport au Neshamot, etc. D'accord? Bon, je croyais qu'on allait arriver, on n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui se passe si je sens pas? Le Morazakin te dit, même si tu sens pas, le fait que tu as réfléchi, le fait que tu as réfléchi et que tu as compris,
bon,
d'accord, ouais. et que tu as utilisé le moteur de cette crainte pour faire une mitzvah, c'est considéré comme si tu as fait la mitzvah comme un esclave. Tu as fait Avodat Hashem. On peut dire que tu as fait Avodat Hashem. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
D'accord.